C'est toi qui as les clés ?
Ah oui, elles sont là.
Design, cinéma, scénographie, peinture, architecture, La Cabane, l'émission où l'on parle d'art sans complexe.
Bonjour à tous, bienvenue sur La Cabane, l'émission culturelle et artistique qui parle d'art sans complexe. Je suis Harold Buffeteau et je suis accompagné d'Émilie Lecoq, comme toujours. Bonjour Émilie.
Salut Harold.
Aujourd'hui, on a un invité assez particulier, notamment parce qu'en fait, il n'est pas à Nantes, il est beaucoup plus loin.
Ouais.
Il est à Oklahoma City et il s'appelle Pierre. Bonjour Pierre.
Bonjour Harold, comment vas-tu ?
Bah ça va, et toi, comment ça se passe de l'autre côté du monde ?
Oh bah écoute, ici on n'a pas vraiment le confinement, ça se fait beaucoup état par état. Dans l'état d'Oklahoma où j'habite aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de confinement malheureusement. Et les cas de Covid continuent d'augmenter, surtout que les fêtes approchent, c'est bientôt Thanksgiving. Les lits d'hôpitaux sont de plus en plus restreints, il y a de moins en moins de place, donc un bon confinement au final, ça ferait du bien, non ?
Oui, peut-être, ouais. En tout cas, là, on a parlé de confinement, et voilà, c'était le pourcentage obligatoire chez Prune, où tu dois parler de confinement, et là, on va plus du tout en parler, puisque on va pas du tout parler de ça, on va plutôt parler d'une thématique artistique sur toi, ta pratique. Et même ton métier et ton parcours artistique.
Bien sûr.
Alors, est-ce que nous, on te connaît un petit peu, enfin, moi, je te connais un petit peu, puisque ça va bientôt faire 10 ans qu'on se connaît.
Et, ouais, moi, ça fait une petite semaine, quoi.
Émilie, ouais, ça fait une petite semaine, quoi.
Ouais, mais tu en sais autant qu'Harold depuis 10 ans.
Un peu, ouais. Est-ce que pour les auditeurs et auditrices, tu peux expliquer quel est ta pratique artistique ou ton lien avec l'artistique ?
Le plus intéressant, ce serait peut-être de parler de mes études supérieures. Après un bac scientifique, j'ai fait une MANA, mise à niveau en art appliqué, à Angoulême. Et là, c'est vraiment une année en fait, qui reprend toutes les bases de l'art appliqué, c'est-à-dire quelque chose qui englobe tout ce qui est visuel. C'est tout ce qui n'est pas de la danse, de la musique et du théâtre, si je peux résumer comme ça. Donc, il y a du dessin, il y a de la sculpture, il y a de la composition graphique, il y a de l'architecture. Il y a vraiment tout un panel, en fait, d'activités qui rentrent, en fait, dans le milieu du graphisme et, bien sûr, le design. Suite à quoi, je suis allé à Paris pour faire un BTS design de produits. Donc, c'est vraiment du design d'objets, en fait, en quelque sorte, où on étudie comment concevoir un objet, que ça aille de la petite cuillère à l'avion, à la voiture, beaucoup de mobilier, bien sûr. Et après, mes activités professionnelles m'ont permis de développer mes compétences dans le domaine surtout du design graphique. Donc, j'ai travaillé dans une imprimerie à Versailles pour faire tout type en fait, d'outils de communication, que ce soit des cartes de business, que ce soit des cartes de visite, que ce soit des flyers, des prospectus, des invitations. C'était surtout physique, c'était pas tellement digital. Suite à quoi, j'ai travaillé avec une artiste norvégienne qui s'appelle Pia Myhrvold, et je faisais de la modélisation 3D pour ses j'ai le mot en anglais qui me vient, exhibition, c'est...
exposition.
Merci pour ces expositions. donc c'était surtout pour la conception et la préparation. Et l'avantage de la modélisation 3D, c'est qu'on peut aménager une pièce virtuellement, en fait, sans avoir à amener du mobilier physique et à devoir passer beaucoup de temps, demander beaucoup d'efforts. Donc ça, c'est assez pratique. Mon dernier boulot, c'était designer packaging. Je faisais de l'emballage en fait pour une société qui était spécialisée dans les chaussettes et les chaussons. Donc j'ai appris beaucoup de choses, même si finalement c'est une niche plutôt rare sur laquelle on travaille. Et aujourd'hui, je suis designer graphique pour une société d'affacturage. Et je fais tout type en fait de graphisme, que ce soit des sites internet, encore une fois des cartes de visite, des flyers, des prospectus, des emails, des publicités qui seront imprimées dans des magazines ou qui seront sur les réseaux sociaux. Donc c'est assez large, et je dirais que ces derniers temps je me suis spécialisé dans le motion design, c'est-à-dire dans tout ce qui est l'animation graphique mais 2D. Donc on peut voir que par mon parcours, donc tout ça se fait à peu près sur 10 ans, j'ai touché à plein de domaines différents dans le graphisme et dans le design. Et donc j'espère en tout cas pouvoir avoir une crédibilité dans les propos que je vais tenir ultérieurement.
Non, mais ce qui est bien, c'est que ton parcours, il est sinueux en fait, et il n'est pas droit, et tu n'as pas connu qu'un axe. Et du coup, les discussions qu'on va avoir aujourd'hui vont se comporter sur la réflexion autour de la pratique et la pratique du design. Et c'est aussi, enfin, le design pour le, si je puis utiliser le terme, le commun des mortels, c'est assez particulier parce que c'est pas forcément compréhensible pour quelqu'un qui connaît pas du tout le design ce que c'est. C'est même considéré comme c'est même pas un art, mais c'est une pratique un peu invisible parce que. Toi, tu étais plus dans le design de produits et moi dans le design d'espace. Quand on avait à raconter qu'est-ce qu'était le design, on devait prendre des choses concrètes, de dire un paillasson, une théière, un truc. Des choses que les gens utilisent la plupart du temps, ils ne se disent pas « Ah, mais comment ça a été fabriqué? Qui l'a fabriqué? Combien de temps ça a été, on a utilisé pour faire ça ?»
Parce que souvent, le consommateur, il voit la phase finale. Et c'est vrai que dans nos études, d'ailleurs, la phase finale, c'était jamais... la chose sur laquelle on allait être noté, c'est surtout le parcours, la réflexion, le travail que tu as fait en amont. Et c'est un peu ingrat, en fait, parce que le but de faire du design, c'est effectivement pour, à la fin, avoir quelque chose à montrer.
La cabane.
Un marteau, il doit de toute façon être fonctionnel et attractif. Je vais m'expliquer. Le manche doit être calibré d'une certaine façon pour qu'on puisse le saisir, pour qu'on puisse l'attraper. S'il est trop gros, bah finalement, il ne va pas rentrer dans notre main. Donc déjà, ça va... notre morphologie va détailler la forme de l'outil. Ensuite, il ne faut pas qu'il soit trop long, sinon il n'y aura pas un bon équilibre. Quand on va taper, ça va peut-être vibrer, ça va pas y avoir un bon mouvement, on ne va pas réussir à viser. Donc la hauteur du manche va aussi être calibrée par rapport au mouvement du bras qu'on va faire. Le matériau qui va être utilisé est important. On ne va pas forcément utiliser du métal, parce que je ne sais pas si vous avez déjà attrapé une barre en métal et vous tapez dessus plusieurs fois, la main va glisser peut-être. Donc peut-être que ce sera du bois, la forme va faire qu'il y aura une certaine ergonomie qui fait que la main va pouvoir saisir le manche assez facilement et va pas glisser. Ça peut être du plastique. Éventuellement, le plastique est peut-être plus chaud. Et pour ce qui est de la tête, bah forcément, ça va être du métal, parce qu'on va taper du métal. Mais il va aussi y avoir une forme spécifique. Il y a différents types de marteaux pour différents clous, pour différents usages. On n'a pas parlé de la couleur non plus, mais les marteaux sont utilisés souvent à l'extérieur. Donc, il faut que le marteau, on puisse le reconnaître. Si jamais je le pose sur l'herbe et que je reviens plus tard, eh ben, je ne vais pas pouvoir le repérer tout de suite. Donc, des marteaux avec des couleurs flash, que ce soit jaune, que ce soit rouge, il faut pouvoir les reconnaître aussitôt. Et en fait, tous ces composants que j'ai évoqués rentrent en fait dans la conception de l'objet. Et souvent, on n'y pense pas. Mais il y a énormément de composants pour faire, encore une fois, je parle d'objets, mais ça peut être un flyer, une carte de visite, un prospectus, une présentation vivante. C'est vraiment très, très diversifié, en fait.
Cet exemple du marteau, je trouve qu'il fonctionne bien parce que, en fait, tout le monde, les auditeurs, je pense que tout le monde a déjà vu, utilisé, j'espère, un marteau dans sa vie. Et c'est vrai que quand on tient un marteau dans sa main, on n'envisage pas tout ce que tu viens de nous exposer là. On prend pour planter le clou qu'il fallait planter, quoi. Donc c'est une bonne définition, enfin une bonne illustration de ce qu'est le design.
Encore une fois, on est obligé de se raccrocher à un exemple parce que ça peut paraître abstrait, en fait, la notion de design. Et je pense que l'évolution du marteau s'est fait au fil du temps en fonction des utilisations qu'on en a, parce qu'au début, quelqu'un a eu l'idée d'enfoncer un clou pour telle raison et s'est dit, tiens, il me faudrait un outil pour le faire. Et puis plus tard, quelqu'un a une utilisation peut-être similaire, mais pas exacte, et va faire évoluer l'outil pour qu'il soit le plus adapté, en fait, à cet usage. Et au fil du temps, on peut donc voir une évolution de l'outil pour qu'il soit de plus en plus performant. Aujourd'hui, on approche la démarche pas à tâtons comme ça a pu être fait par le passé, mais on va essayer du coup de se poser, et quand on veut répondre en fait à une problématique, on va essayer en amont de faire un brainstorming et de se dire ok, quelle est vraiment la fonction, quel est l'usage, quel est le but, et d'essayer en fait d'analyser tous les paramètres en fait qui peuvent être entrés, les raisons pour lesquelles ça va marcher, les raisons pour lesquelles ça ne va pas marcher. Et ça en fait c'est vraiment ce que je disais au début, la phase la plus intéressante en fait dans la conception de quelque chose de créatif.
La thématique, c'est la thématique.
On a appelé ça l'art de l'imperceptible, dans le sens où le design en dehors de l'objet présentait, donc comme tu dis, un concept, une réflexion et tout ça. Donc l'art de l'imperceptible, c'était l'une des définitions qui nous semblait intéressant. Est-ce que déjà tu es d'accord avec ça?
Je peux voir la raison pour laquelle vous dites que c'est imperceptible. Moi je pense que c'est perceptible, mais on le regarde pas en fait. Et c'est ça là, vraiment un objet qui est bien conçu, c'est un objet qu'on va pas questionner en fait. Il va venir et en fait il va faire sens aussitôt, et on va pas avoir besoin de se dire bah, pourquoi il a cette couleur, pourquoi il a cette forme, pourquoi il est comme ci, pourquoi il est comme ça. Et en fait ça va être intuitif. En fait, c'est vraiment ça le design, c'est vraiment utiliser cette notion d'intuition pour que ce soit spontané et pour que l'utilisateur n'ait pas en fait à se questionner et à lire une notice d'utilisation.
C'est l'instant mamie.
Poser une question, je voulais savoir pour toi, qu'est-ce que l'art de l'imperceptible ?
A priori, c'est justement quelque chose qu'on a du mal à cerner. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Mais est-ce que tu crois que c'est un art ?
Est-ce que l'imperceptible a une place dans l'art ?
Pour moi, non. Parce que pour moi, l'art, c'est un phénomène d'émotion. Si c'est imperceptible, ce n'est pas d'émotion. Alors que ce qui est intéressant, c'est que l'art m'interpelle, que ce soit un art figuratif ou un art abstrait. Ce qui est intéressant, c'est que ça m'interpelle, donc crée une émotion. Que ce soit une émotion positive ou une émotion négative, d'ailleurs, que ce soit une émotion plus visuelle de couleur ou une émotion justement de finesse des interprétations, ok. Mais pour moi, l'art n'est pas imperceptible.
Je pense que parfois, il y a des choses qu'on ne voit pas. Enfin, non. Il y a des choses qu'on ne relève pas, qu'on ne perçoit pas et qui nous touchent en fait. Parce que parfois, on peut être devant un tableau, devant une sculpture et on peut pas expliquer pourquoi ça nous touche.
Et ben pourquoi ?
C'est un peu imperceptible. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, ah ben oui, mais alors moi je dirais pas imperceptible, je dirais mystérieux. Pourquoi est-ce qu'une œuvre, c'est le mystère de l'œuvre qui te permet d'avoir une émotion ? Parce qu'en fait, tu reçois l'art, enfin moi à mon avis, à travers les émotions. Et cette émotion, que ce soit une émotion de la couleur, une émotion du rapport, des personnages, de la vie, du tableau, ça peut être plein de choses différentes. Mais tu as besoin. Enfin, moi, c'est comme ça, si tu veux. Il y a des œuvres qui me laissent très, très froide, pour lesquelles je n'ai aucune émotion. Que ce soit la Joconde, pour lesquelles je n'ai aucune émotion, que ce soit des trucs comme ça, ils ne me créent pas d'émotion. Quand je vois un beau tableau de Matisse, ça me crée une émotion. Et je ne peux pas dire que cette émotion soit imperceptible, elle est perçue. Parce qu'en fait, l'inverse d'imperceptible, c'est percevoir, si tu analyses le mot. Et justement, tu as besoin de percer le mystère des choses.
Donc, ce qui est imperceptible dans une œuvre, ça va être plus comment elle a été réalisée, elle vient. Fin...
Ce qui est imperceptible, parfois, justement, c'est le travail qu'il y a derrière. L'élaboration d'une œuvre passe par un travail, et ce travail est imperceptible.
Est-ce que ça joue sur la manière dont tu reçois une œuvre ?
Oui, parce que tu sais, dans une œuvre, par exemple, que ce soit une œuvre de Chardin, de Creuse, tous ces gens qui étaient... C'était des maniaques du trois poils de pinceau qui travaillaient, c'était la finesse, c'était etc., qui, moi, forcément, ne me crée pas d'émotion. C'est pas tout, mon émotion ne passe pas par la qualité du travail et par l'imperceptible du travail. Je crois que c'est ça, en fait.
Et je vais te poser, je veux terminer avec deux questions sur justement le temps de création. Je ne sais pas si tu les connais. C'est, je parlais de deux œuvres hyper différentes.
Oui.
La première, je sais que tu vas la connaître, c'est Les Noces de Cana qui sont justement en face de la Joconde au Louvre.
Oui, Les Noces de Cana, oui, je vois très bien.
À ton avis, combien de temps il a fallu pour peindre ce tableau?
Alors, faut bien se dire qu'à l'époque, les maîtres avaient des arpètes qui travaillaient pour eux. Donc, tous les fonds étaient préparés par des... Ils avaient des petits gars qui travaillaient pour eux, ça c'est vrai. Le maître donnait seulement le coup de pinceau. Mais a priori, quand tu vois un tableau de cette ampleur-là, tu te dis 10 ans de boulot. C'est énorme. Mmh. C'est énorme, ce tableau. Et quand tu vois la manière dont chaque détail est fait, chaque cil est fait, chaque vibration dans les lèvres, dans le regard et tout ça, tu te dis c'est des travaux qu'on lui demandait 20 ans, je ne sais pas.
J'aime quand tu me racontes des histoires.
On peut remercier la mamie d'Ariane, Mamimo, c'est ça?
C'est ça, Mamimo, ouais.
qui s'est prêté au jeu alors que la question était vraiment pas évidente, quoi. Genre, de but en blanc, de dire l'art de l'imperceptible, qu'est-ce que c'est pour vous? C'est vrai que c'est pas facile, mais je trouve qu'elle a relevé un peu le défi haut la main. Et ça soulève beaucoup de choses. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Pierre, mais en fait, il y a beaucoup de choses qu'on a pu dire juste avant sur le fait de genre la conception, le temps passé, les réflexions. Et là, par rapport à l'art, il y avait le côté aussi de, en fait, ce qui est imperceptible, en fait, c'est pas intéressant des fois, enfin, de pas le voir ou de le voir. Et puis même, elle en parle en disant, pour elle, ça n'existe pas dans l'art, l'imperceptible.
L'art a pour but, en fait, de véhiculer un message et des émotions, bien sûr. Et c'est, on peut, en fait, ressentir des émotions sans pour autant être capable de mettre un mot dessus. Des fois c'est simplement on croise quelqu'un, il va y avoir un parfum et hop, ça va nous ramener dans une situation qu'on a vécue avec une certaine personne parce que c'est la même odeur, parce qu'en fait nos émotions sont très très fortes, on a vraiment une mémoire, en fait, une mémoire olfactive, une mémoire auditive, notre vue est très très sollicitée dans notre société, donc c'est peut-être moindre, mais des fois voilà, on va entendre un son, on va sentir une odeur et on ne sait pas pourquoi, mais on va avoir ce souvenir, on va avoir cette émotion, on va être transporté. Et je pense que ça touche vraiment à l'imperceptible, au fait que ce soit inconscient. Quand cette personne nous dit que devant certains tableaux, elle n'a pas d'émotion, mais d'un côté, je pourrais dire que c'est une forme d'art, parce que il y a des tableaux pour lesquels on va vraiment ressentir beaucoup de choses. Il y a d'autres tableaux qui vont peut-être être plus fades. Peut-être que c'est le but. Peut-être que le but, c'est de montrer le fait que la vie est composée de différentes phases, de différentes étapes, et qu'il n'y a pas forcément que de la joie, de la colère, de la tristesse, etc. Parfois, il y a de l'indifférence. Mais ça, c'est du coup imperceptible.
Est-ce que tu arriverais dans ce que tu viens de dire par rapport à quand tu viens avoir des sentiments ou des choses par rapport à une œuvre d'art, est-ce qu'on peut réussir à faire ce parallèle avec le design, ou tu aurais plutôt tendance à dire que c'est complètement différent? Le fait de percevoir des choses.
C'est exactement lié, parce que reprenons l'exemple du musée, par exemple. Le but d'un musée, c'est de voir des œuvres d'art, on est d'accord. C'est-à-dire qu'il y a plein d'artistes différents, que ce soit des peintures, des sculptures ou même de l'art contemporain, qui ensemble, en fait, vont exposer leur production. Mais le musée, à proprement parler, doit être conçu justement pour mettre ces œuvres en valeur. Donc, dans... La scénographie qui va être instaurée, le parcours du spectateur, mais aussi dans la disposition des œuvres, dans les éventuelles explications qui vont être apportées à l'œuvre, tout ça, en fait, ça doit être conçu, mais ça doit s'effacer devant l'œuvre. C'est-à-dire que ça doit être vraiment un support pour mettre en valeur l'œuvre, que ce soit avec les lumières, avec les couleurs, avec, encore une fois, les peintures, les textures, l'écho qu'il va y avoir dans la salle. Et tout ce design, en fait, cette préparation est faite pour justement être invisible, pour justement s'effacer devant l'œuvre. Et qu'on ait l'impression que quand on regarde Mona Lisa, on a l'impression qu'il n'y ait que Mona Lisa dans la salle, parce que justement, elle est mise sur un piédestal, en plein milieu de la salle, avec beaucoup de place tout autour. Ça, c'est du design. Ça, c'est justement imperceptible. Et le but, c'est justement de ne pas attirer l'attention sur le fait de dire « Regardez mon design, il est vraiment super. Vous avez vu, j'ai mis cette lumière, j'ai mis cette couleur au mur, etc. » Donc, c'est imperceptible. Et le but, c'est justement de ne pas susciter d'émotion à proprement parler. C'est de jouer avec, avec l'œuvre. Donc, je pense qu'il y a un certain parallèle à faire entre ces deux choses.
Ouais, d'ailleurs, dans les musées, on appelle ça les boîtes blanches, en fait. Surtout dans les musées classiques, le fait d'avoir une boîte blanche dans laquelle exposer une œuvre, justement pour qu'elle soit que la salle soit le plus lisse possible, pour pas qu'elle altère la production de maître, quoi.
C'est très difficile en fait de voir la limite en fait entre l'art et le design. Je pense que c'est discutable, mais je pense que l'un répond à l'autre. L'art en fait, c'est surtout que ça n'a pas de fonction, ouais. Ça n'a pas de, il y a un but, mais il y a pas une fonction dans l'art. Tu vas faire encore une fois, une installation, en fait, l'idée, c'est de communiquer un message. C'est surtout une intention, encore une fois, une émotion. Et c'est de laisser sa trace dans l'histoire. Mais le design, c'est un peu utiliser différents principes qu'on a évoqués au début de l'émission, mais de les appliquer pour une fonction, pour un usage, en fait.
On pourrait en parler beaucoup, parce qu'en fait, même, je pense aux marques Coca-Cola ou les choses comme ça. Pour citer Coca-Cola, je peux citer Pepsi, Schweppes, enfin, <d'autres> mais en gros, qui sont aussi des productions de design qui ne sont pas faites de fonction, à part celle de communiquer, enfin, quelque chose, et d'être visible et d'être attractif aussi. Mais après, là, du coup, on parle plus dans le design graphique et tout de la chose. Et on s'éloigne un peu peut-être de l'imperceptible, mais en même temps, quand on voit une marque comme Coca-Cola, Pepsi, Schweppes, au final, en fait, il y a aussi cette idée de travail de conception derrière qui a été faite sur le choix des couleurs. Le rouge, c'est fait juste pour attirer le regard, ou les formes, c'est fait pour être aussi attractif. Le fait qu'il y a un Père Noël sur le Coca-Cola, par exemple, c'est pour illustrer Noël, et du coup c'est pour illustrer la famille. Enfin, tu vois, il y a des codes qui sont faits, qui sont liés donc au domaine de la publicité, mais qui sont pas ouvertement dits. Ah, on a fait ça pour ça, mais juste c'est juste de l'imperceptible verbal, quoi. C'est l'inéverbal.
Là, tu me tends une perche, et merci beaucoup d'ailleurs, parce que je vais pouvoir parler maintenant du marketing. Aujourd'hui, moi, je travaille en fait dans une équipe marketing, et moi, je suis très, très intéressé en fait par toutes les techniques de communication, je devrais dire du mercantile en français, mais on peut garder le mot anglais de marketing. En fait, de toutes les techniques de communication inconsciente, en fait, la façon dont on va pouvoir subtilement insinuer un message, une valeur, un modèle. En fait, tu parlais de Coca-Cola, justement, c'est iconique, Coca-Cola, tu parles du Père Noël, parce que ça veut dire que pendant les fêtes, il vous faut du Coca-Cola. C'est-à-dire que même le Père Noël boit du Coca-Cola, t'imagines. Alors, toi, tu ne bois pas de Coca-Cola. Enfin, c'est un petit peu le message, en fait, qui est derrière l'image.
On est un peu à l'apogée de l'imperceptible, parce que là, leur but dans le marketing, enfin, arrête-moi si je me trompe, parce que moi, c'est vraiment pas ma spécialité, mais leur but, c'est vraiment qu'on ne voit pas tout ça, puisque leur but, c'est qu'on achète inconsciemment. Bon, alors du coup là on peut rentrer dans des choses un peu critiques, parce que je pense que ça peut éveiller
aussi de pouvoir se protéger, en fait, parce que chacun a sa propre compréhension, mais on sait que par des biais, parce qu'on est tous des humains, on est tous plus ou moins similaires dans la façon dont on réfléchit, dans notre logique, on sait qu'on va tous arriver à une conclusion similaire. Quand on a, voilà, comme je disais, le Père Noël qui boit du Coca-Cola pendant les fêtes, j'ouvre une parenthèse simplement pour dire que l'idée d'inclure le Père Noël, c'était simplement pour pouvoir vendre une boisson fraîche,
oui,
pendant l'hiver. C'était pas le but, c'était pour pouvoir étendre les ventes de Coca-Cola sur toute l'année et pas seulement en été. Mais le but, justement, c'est qu'on arrive tous à cette conclusion, mais que Coca-Cola ne l'a jamais vraiment explicité. Donc, si jamais on devait leur reprocher peut-être une communication mensongère ou trompeuse, ben, ils pourraient très bien dire, ben non, regarde sur notre script, on dit rien, c'est vraiment ton interprétation. Donc, c'est une façon, en fait, aussi de se dédouaner et de faire dans l'implicite. Et on sait dans le marketing depuis longtemps que on achète via nos émotions et on justifie ensuite avec notre raison. C'est-à-dire que quand on va dans un supermarché ou dans des galeries marchandes, ce que je ne vous souhaite absolument pas, on va d'abord voir un objet et c'est nos émotions en fait qui vont être attirées par l'objet. Encore une fois, par la forme, par...
On sait plus trop.
Par la texture.
On sait plus trop ce que c'est en France, hein, tu
et
sais.
Cette émotion.
Il n'y a plus tout ça. Ah oui. Hein. Ça fait trop longtemps les commerces non essentiels, comme ils disent là-haut, n'existent pas, sont fermés. Donc, pour le coup, on ne peut pas aller se balader dans les galeries marchandes.
On ne sait pas si c'est temporaire. Bon, vos souvenirs, en tout cas, de balades dans les galeries marchandes. C'est ça, en fait, qui va attirer notre attention. C'est vraiment, en fait, la façon dont nous, on va pouvoir. S'identifier par rapport à l'objet de façon émotionnelle. Et ensuite, une fois qu'il y a eu cette première approche, on a fait 80% du trajet, on va nous-mêmes nous raisonner en nous disant « Mais oui, j'ai besoin de cet objet. J'ai besoin de cet objet pour telle ou telle raison, parce que ce sera bien à la maison, ça va faciliter ma vie. Finalement, tous mes collègues l'ont aussi, donc pourquoi pas moi ?» Et on sait depuis longtemps que l'accroche, elle se fait du point de vue émotionnel. Et le design, aujourd'hui, il est un petit peu perverti, parce qu'il est utilisé justement à ces fins-là. Il est utilisé par le marketing, beaucoup par le marketing, pour pouvoir vendre le plus possible, pour pouvoir offrir des formes attractives, des couleurs attrayantes. Harold parlait du rouge de Coca-Cola. Le rouge, c'est la couleur la plus facilement visible, en fait, à l'œil humain. C'est d'ailleurs pour ça que les feux rouges sont rouges, les panneaux stop sont rouges, parce que c'est ceux qu'on voit le mieux. Ça remonte très très loin en fait. Je pense que l'homme est conscient en fait de toutes les petites imperfections qu'il y a dans son environnement et il peut les collecter et se faire rapidement une idée dessus. Et ce sera souvent une impression. Tout ça est pris en compte quand on fait une campagne marketing pour qu'elle soit la plus propre et la plus lisse possible. Et surtout quand on a une image de marque, essayer qu'elle soit le plus constante possible. Parce qu'une fois que le consommateur est fidélisé, soit est conscient en fait de l'existence de la marque, on veut garder une direction stable en fait et montrer qu'en fait on sait où on va. Et le design, c'est pas seulement de l'objet ou de l'architecture ou quoi que ce soit, ça peut être vraiment étendu à plein de domaines. C'est vraiment ça en fait que je voulais marteler. Si jamais il y a une chose à laquelle il faut se souvenir en fait de mon intervention, c'est que le design est absolument partout. Tu vois là, j'ai pris quelques notes avant qu'on s'appelle. Il y a des choses sur lesquelles les gens n'ont pas forcément conscience, mais par exemple le design alimentaire. Quand aujourd'hui on achète un cookie, un biscuit ou quoi que ce soit, cet objet, ce produit a été conçu de telle sorte à ce que quand on le met dans notre bouche, ça va faire un son particulier, on va croquer. Il va y avoir un bruit attractif, un bruit attrayant, un croc. On va le mâcher, peut-être qu'on va... on n'y pense pas, mais tout ça, ça a été travaillé en amont. En fait, pour que ce soit le plus attractif.
Ça me rappelle une expérience personnelle que j'ai vécue où en fait je me suis retrouvée à tester une salade d'une marque que je ne citerai pas, qui ne fait pas de salade, qui d'ailleurs depuis n'a toujours pas lancé de salade en fait, ça n'a pas dû marcher. Et en fait, j'étais donc devant une personne et elle me demandait mes impressions. Est-ce que cette sauce était mieux que celle-ci? Est-ce que si on mettait cela comme ça, je l'achèterais plus? Et moi, c'est une partie du design qui me dérange énormément. Et c'est ce que j'ai dit à la fin de ce petit job que j'ai fait clairement pour l'argent. C'est que, en fait, là, on est en train de pousser le design tellement loin qu'on est en train de faire consommer aux gens des choses jolies. Et presque le goût, en fait, enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai eu l'impression, c'était que finalement, comment je vais faire pour plus faire vendre cette salade, et peu importe si c'est bon pour la santé, enfin voilà, il y avait une question du packaging, tout
ça. C'est utilisé à mauvais escient, en fait, c'est vraiment pour pousser les ventes. Alors que le design devrait être noble, en fait, et devrait servir. En fait, c'est vraiment toute la question de l'objectif. Et je vais faire un parallèle, on vient d'atteindre un point Godwin assez rapidement. Je suis en train de lire un livre hyper intéressant qui s'appelle « Libre d'obéir », écrit par Joan Chapoutot. Le sous-titre, c'est « Le management du nazisme à aujourd'hui ». Et l'idée, en fait, de ce livre, c'est de nous faire prendre conscience à quel point on est aujourd'hui très très proche, en fait, je dirais pas de l'idéologie nazisme, mais du fonctionnement de la société dans le Troisième Reich. Et en fait, quand je lis ce livre, j'ai vraiment l'impression que le Troisième Reich, c'est une multinationale. La façon en fait dont ils ont constitué leur état, si je peux dire ça comme ça, parce que les nazis étaient très anti-étatique. En fait, ils avaient beaucoup d'agences et il y avait beaucoup de rivalité en fait entre les uns et les autres. Il y avait pas vraiment de coordination. Il y avait très très peu en fait de garde-fous. Et en fait, la façon dont ils ont organisé leurs institutions a fait qu'ils ont été extrêmement performants pour atteindre leur but. Un but que je ne cautionne absolument pas du tout, hein, mais si on regarde la technique utilisée, elle était très pertinente. Et malheureusement, ils l'ont utilisée à de mauvais escients. Ce qu'ils ont fait, on est tous d'accord pour dire que c'est affreux, c'est absolument condamnable, mais la technique utilisée était bonne. Et je pense que là, avec ce que tu disais sur la publicité et sur le fait de toujours vouloir créer un nouveau produit, je pense que ça, on utilise une technique qui est bonne, qui est le design, à de mauvais escients, justement pour faire vendre des choses pas toujours saines, qui vont nous rendre malades sur du long terme, qui auront un goût ou une couleur attractive, tout ça pour justement écouler en fait un stock de produits et pouvoir toujours vendre.
Oui, c'est
plus.
Ça. C'est affligeant, tout ça répond aussi à notre société qui est une société d'hyperproduction où on produit toujours plus et où il faut aller toujours, toujours plus vite. D'ailleurs, on pourrait rebondir avec la question dont on n'a pas eu de réponse, Harold, sur cette question du temps. Puisqu'à l'époque des grands maîtres, comme disait Mamimo, cette question de l'hyperproductivité n'existait pas ou pas encore. Et donc, alors finalement, c'est quoi la réponse à cette question ?
Là, on va plutôt repartir un peu en arrière sur l'art et le combien de temps ça a pris et le temps que ça a pris pour concevoir les choses. Et donc, alors, je vais vous poser la même question que à Mamimo, finalement. D'après vous, les noces de Cana, ça a pris combien de temps ? Alors, en sachant que ça a été fait au XVIe siècle par Paul Véronèse et que la toile fait 70 mètres carrés.
Ouais, elle est énorme. Elle est énorme. Et d'ailleurs, je vais juste ouvrir une petite parenthèse pour dire que là, le design est hyper bien fait parce qu'on a la Joconde d'un côté qui est toute petite sur un piédestal et on se retourne et on a ce tableau gigantesque derrière nous et la confrontation en fait de ces deux œuvres, l'un plutôt petit en fait, on n'en a pas l'impression, mais la Joconde est plutôt petite, et l'autre tableau, les Noces de Cana, c'est vraiment un design en fait qui met l'un et l'autre en valeur. En fait, ils se répondent et mutuellement, on se rend compte à quel point la Joconde est petite et à quel point les Noces de Cana sont grandes. Voilà.
Tu détournes la question là pour pas répondre. En fait.
Oui, je détourne la question. moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une question piège parce que comme ça, moi, je dirais plusieurs années, définitivement plusieurs mois. J'aurais dit peut-être un an ou deux. Au minimum, mais j'ai l'impression que c'est une question piège parce que comme ça a été dit juste avant, il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient sur ce tableau et à temps plein, oui. J'imagine. Franchement, je suis dubitatif. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte de savoir.
Je ne veux pas répondre.
Vraiment la crainte, voilà, moi je dirais entre 1 et 2 ans, 3 ans maximum.
Émilie, tu dirais quoi ?
Bah, comme Mamimo a dit 10 ans, moi je vais dire un peu plus, 10, 20 ans.
Pour répondre à la question, la commande a été faite le 16 juin 1562 par le bénédictin Paul de monastère San Giorgio Maggiore, pour mon petit accent vénitien stylé.
Il était bien.
Il est pas mal. Donc si j'ai dit 6 juin 1562 et elle devait être livrée le 8 septembre 1563, donc c'est-à-dire un peu plus d'un an après.
Ah ouais,
ah ouais.
Beau gosse.
Alors que pour le parallèle, la Joconde a été peinte par Léonard de Vinci pendant 3 ans.
Ah ouais.
Et elle fait 77 sur 53 cm.
Et eh ben.
Ouais.
Ah, ça vous embouche un coin.
Ouais.
Ah là, oui.
Complètement.
Mais
je veux dire que niveau organisation, ils ont mieux géré sur les Noces de Cana.
Ah ben, je pense qu'ils étaient beaucoup plus déjà au mètre carré. Et
c'est plus productif, plus. On peut le dire.
Pour une toute petite parenthèse, pour parler de Guernica, de Pablo Picasso, en fait, il faut vraiment définir ce qu'on dit par combien de temps ça a pris pour faire telle œuvre. Parce que Guernica, je ne sais plus combien il a fait d'essais, mais il en a fait peut-être 120 ou un truc comme ça. Et à chaque fois, il n'était pas en fait satisfait du résultat. Et au final, le tableau qu'il a pris, c'était l'un de ses premiers. Alors, je ne sais plus si c'était le deuxième ou le troisième ou un truc comme ça, mais c'est l'un des premiers qu'il a fait. Alors, il faut voir, est-ce que finalement, le temps pour créer l'œuvre, c'est le temps complet à partir du moment où tu commences ton premier brouillon, ou est-ce que c'est simplement ce brouillon-là, parce que tous les autres qu'il a fait, finalement, ça a contribué à ce qu'il finisse son œuvre, mais ça n'a pas contribué finalement à l'œuvre en elle-même. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais. Donc, oui, mais si on suit ta logique, en tout cas que tu as appliquée pour la définition du design, dans laquelle tu disais que le processus mm-hmm. était quand même une chose importante pour la création de la finalité, pour répondre avec cet exemple-là, je dirais que l'ensemble des dessins devrait être pris en compte. Finalement, il s'est rendu compte que c'était le deuxième le bon, mais il a eu besoin de passer par toutes ces phases où il en a fait plein d'autres avant d'être convaincu.
Ça. Et c'est pour ça que c'est très très difficile en fait de juger, parce que quelqu'un qui va écrire un livre, par exemple, va peut-être méditer sur l'histoire au préalable, avant même de poser le premier mot. Et donc il va te dire, le livre il m'a pris peut-être 6 mois à écrire, d'accord, mais il t'a pris combien de temps à le concevoir? Peut-être qu'il t'a pris 10 ans, parce que au final tu l'as médité, tu l'as réfléchi, peut-être que des expériences personnelles ont permis d'enrichir le livre. Donc c'est pour ça que c'est très très difficile de jauger, et la Joconde qui a pris 3 ans à faire, peut-être qu'elle a pris beaucoup plus de temps finalement au final à concevoir depuis l'idée initiale jusqu'au moment où elle se
compose. Ben justement, en fait, le film Inception de Christopher Nolan, sorti en 2017. Je savais que tu avais la réponse, j'aurais pu attendre un petit peu.
Alors, je l'avais
effectivement,
aussi.
Effectivement. Ah ben parfait. Effectivement, ça a mis 10 ans. Mais alors, c'est du coup, là, on parle de 10 ans de conception par rapport au fait de poncer un sujet, de réfléchir sur les rêves et sur les choses comme ça. Christopher Nolan a fait... pas une introspection, mais une recherche un peu détaillée de toute la thématique du rêve et toutes ces notions-là pour pouvoir écrire le film, que ce soit dans la réalisation, écrire la réalisation ou écrire le scénario. Et il faut savoir que les films, il y a une sorte de moyenne de production d'un film pour le faire tourner, c'est à peu près 1 an. Et là, lui, il a duré 1 an. C'est-à-dire qu'on a fait le film, on pourrait dire combien de temps on a fait pour faire le film, on pourrait dire 1 an, mais en réalité, toute la partie design, de conception, de l'histoire et des mécanismes scénaristiques, en fait, a duré 10 ans. Et pour l'anecdote, parce que j'ai plein d'anecdotes, à la base, ça faisait 20 pages, et ça s'appelait Le voleur de rêve, et ça avait été pensé pour être un film d'horreur.
Bon. Ouais, carrément.
Et sur un autre domaine, par exemple, en termes de temps, et là, il y a une thématique aussi que j'avais envie d'évoquer sur la conception et le temps qu'on met pour faire une œuvre. Vous connaissez tous Harry Potter, l'école des sorciers,
oui.
De mmh, Joanne
ouais.
Rowling.
Ouais.
Vous pensez qu'elle a mis combien de temps pour écrire son livre?
Oh là là.
Oh là là, je
c'est
le savais.
C'est dur tes questions.
J'ai oublié. Ah.
C'est des questions
je
faciles.
Sais qu'elle l'a écrit. Je sais qu'elle l'a. Enfin, je crois savoir qu'elle l'a écrit dans un bar ou dans un café et qu'elle l'écrivait comme ça sur des morceaux de nappe. Honnêtement. J'hésite à dire qu'elle l'a fait hyper.
Ouais,
je crois qu'elle l'a fait hyper rapidement.
J'allais dire un peu la même chose, mais peut-être probablement pour le même exemple que Mamimo tout à l'heure, que comme là on était sur des énormes durées avant, bah là c'est le moment de balancer la petite durée, genre 3 mois ou un truc comme ça pour une œuvre gigantesque comme Harry Potter.
Je pense qu'elle a été méditée en amont, parce que à mon avis elle avait déjà une idée d'où elle amenait ses personnages et où est-ce que ça allait finir, parce que bon c'est une œuvre quand même sur 7 tomes qui est bien détaillée. Donc peut-être qu'elle y a réfléchi en amont, mais après, ouais, moi je dirais la conception peut-être plusieurs mois, pas plus.
Donc c'est 1990-1996. Donc 6 ans, si on cumule genre l'idée de la première idée à la sortie de son livre. Et elle a commencé à écrire, comme tu disais, donc sur des nappes, dans des cafés. Et elle a commencé à écrire pendant une année et elle s'est arrêtée pendant 2 ans. Donc elle n'a pas écrit pendant 2 ans. Et ensuite, après ces 2 ans, elle a recommencé à écrire. Et la question qui se pose, c'est est-ce que du coup, les 2 ans de pause ont servi pour vous dans la conception du livre? Ou alors, on peut les exclure?
Je pense que c'est comme un muscle, en fait. La créativité, c'est comme un muscle. Quand tu vas à la salle de sport, tu passes pas 8 heures par jour. C'est complètement contre-productif. Parce qu'il te faut des temps de repos. Il faut que ton muscle puisse se régénérer. Le principe, en fait, de se muscler, par exemple, si c'est notre but, c'est de mettre en fait le muscle en stress et de lui laisser le temps en fait de se régénérer, de se reconstituer. Et après, on retourne encore une fois à la salle de sport et on va le remettre en stress. Mais le temps de repos, il est aussi important en fait que l'exercice en lui-même. Le temps de pause fait partie pour moi, fait partie intégrante en fait du processus créatif.
Et donc, à l'instant, c'était la musique Wintergatan Marble Machine que vous avez écoutée sur Prune 92 FM. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ce titre ?
Est-ce que déjà, Pierre, tu connais cette musique ? Ça te dit quelque chose ?
Je la connais pas du tout.
Alors,
du tout. Mais j'ai trouvé que c'était très, très mélodieux, très agréable.
Tu vas adorer, du coup. En fait, cette musique a été faite par une machine manipulable par un artiste. Et en fait, cette machine que tu... Peut-être que tu as déjà vu ça quelque part, mais là, du coup, dans l'instant, tu fais pas le lien. En fait, c'est une machine faite avec des morceaux de bois et des billes. Des billes en acier qui tombent sur un xylophone et la personne fait rouler un mécanisme qui actionne comme à la manière d'une machine à musique, en fait. Comment on appelle ça ?
Une boîte à musique.
D'une boîte à musique
tu veux dire,
qui fait tourner une roue et en fait, les billes tombent à un certain rythme sur un xylophone. Et après, il y a plusieurs choses qui sont intégrées, comme une sorte de grosse boîte avec plein d'instruments. Et il y a une basse, il y a un vibraphone, il y a des cymbales et il y a d'autres percussions. Et en fait, les billes, en tombant à un rythme précis, créent les rythmes et tous les percussions. C'est-à-dire que là, ce que tu as entendu, il n'y a aucun montage. Le mec fait tourner juste une roue. Et dans la conception et le rythme dans lequel il fait tourner, ça fait la musique.
Donc en fait, c'est déjà programmé à l'avance. C'est-à-dire que cette boîte à musique ne peut jouer que cette musique.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il a conçu et réalisé une machine qui ne peut jouer qu'une musique, et donc qui est celle qu'on vient d'entendre.
C'est impressionnant.
Et donc en coupant toutes les pièces...
Et la question qui suit, c'est est-ce que ça, c'est de l'art ? Ou est-ce que c'est du design ?
Et bien ça, c'est à cheval, justement. C'est pour ça que on t'a fait écouter ça. C'est un peu à cheval entre l'art et le design, puisqu'il a dû quand même concevoir, tester, imaginer... Une machine, donc il y a quand même l'idée de conception.
Et là, je pense qu'on peut revenir sur ce que je disais juste avant à propos d'Inception, le fait qu'il ait été conçu sur 10 ans et qu'au début c'était seulement sur 20 pages. Le fait en fait de savoir ça, ça ajoute de la valeur à l'œuvre. Tu vois, la musique, moi je t'ai dit au début, je l'avais trouvé mélodieuse, j'ai trouvé ça agréable, j'ai trouvé ça sympa, sans savoir ce qu'il y avait derrière. Mais quand en fait on soulève le rideau et qu'on regarde en coulisses ce qui se passe, en fait c'est merveilleux, c'est vraiment. C'est mieux que s'il y avait un orchestre en fait qui avait joué ça, ou c'est encore mieux que si le gars avait enregistré chaque instrument un par un et l'avait édité après sur son ordinateur. Le fait que ce soit tout joué en même temps, que ce soit live, mais en même temps qu'il n'y ait aucun musicien, le fait que ce soit tout mécanique, le fait que ce soit finalement un moteur qui fasse tourner le truc, un moteur mécanique, ça ajoute, je pense, de la valeur à l'œuvre.
Alors, c'est pas le cas d'ailleurs. C'est activé par l'homme. C'est une roue qui tourne à la main, en fait.
Mais l'homme, il est pas obligé d'être musicien. Ça peut être toi ou moi.
Oui, voilà, c'est ça.
On peut très bien faire tourner la roue. C'est-à-dire que ça demande pas une compétence particulière, un savoir-faire particulier, et tout le monde peut jouer cette musique.
Oui, fait. Techniquement, oui, on peut faire ça. Ouais. Après, il faut savoir monter la machine si tu veux, mais là, c'est plus compliqué.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'on devient musicien quand on fait ça ?
Ah, ça, c'est une autre question, je pense. Ça, c'est vrai que c'est une autre question.
En tout cas, cet exemple est assez marquant dans le sens où, par rapport à l'art de l'imperceptible, enfin, par rapport à ce que tu nous dis là, pour toi, justement, ce qui était pas perceptible, puisque tu as juste entendu une musique et que tu as pu enfin y avoir accès parce qu'on te raconte, ça redonne une autre valeur et que cette question de l'imperceptible peut modifier notre vision d'une œuvre d'art quand on y a accès.
Tout à fait, c'est vrai. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut toujours lire les écriteaux dans les musées, parce que ça nous donne une autre vision de l'art. Quand on connaît l'histoire qu'il y a derrière, quand on sait voilà, le temps que ça a mis à être peint, les circonstances, la période durant laquelle ça a été fait, les matériaux qui ont été utilisés, etc., il y a deux lectures en fait. Il y a la première lecture individuelle, personnelle, ou une écoute d'ailleurs, c'est pas forcément une lecture, mais quand on est confronté à une œuvre et on va avoir nos premières impressions, et après quand on est éduqué sur l'œuvre, et en fait c'est ça que j'aime beaucoup personnellement quand je vais dans un musée, c'est me poster devant un tableau, devant une sculpture, de la regarder, de me faire mon avis, et ensuite de lire l'écriteau et de me dire ah oui, en fait j'étais très très loin de l'intention initiale ou de ce que je croyais que ça allait véhiculer comme idée. Et c'est surprenant parce qu'on apprend de soi et on apprend aussi des autres. C'est un jeu de communication.
Mais c'est comme ce qu'on pourrait... T'aurais pu faire même cet exercice avec le marteau au début, en fait. Finalement, c'est un peu ce qui s'est passé, non ? t'as vu le marteau, tu te dis ah, putain, ce marteau il est pratique et tout, il me permet de taper dans des clous. Et puis en fait tu te dis, attends, mais si j'essaye de savoir pourquoi, comment ce marteau a été fait, et en fait en développant et en apprenant à savoir comment il a été fait, et tu te dis, ah mais en fait c'est super intelligent ce marteau, c'est trop bien quoi. Parce qu'il répond déjà à une demande, et en plus elle a été conçue de manière tout à fait logique, avec la couleur, avec la forme, avec les matériaux et tout ça quoi.
C'est vrai que j'avais pas capté cet aspect de l'imperceptible, de ce qui est vraiment, là pour le coup c'est vraiment imperceptible, le fait que derrière cette musique en fait il y a toute une production dont on a absolument pas conscience.
Oui, qui est d'ailleurs dans la musique actuelle aussi le cas, quand on entend une musique en boîte de nuit. Mmh.
C'est vrai.
Ça n'est pas arrivé.
Ah, mais vous avez encore des boîtes de nuit, vous ? Non, c'est pas comme du les tout, centres commerciaux, plus. Vous en avez plus.
Non, pas du tout. Depuis longtemps. Non, mais tu vois, il y a des chansons où on dit, oh, j'adore cette chanson et tout, mais on se rend pas compte des nombres de personnes qu'il y a derrière, de la production, du temps que ça a fallu. Le petit bruit qu'on entend, des oh, c'est super ce bruit. Ben, en fait, on sait pas que c'est le bruit de tel ou tel instrument ou tout ça. Et il y a une sorte de chose qu'on ne peut pas percevoir, mais pourtant, on peut le ressentir. Quoi.
C'est vrai. Et je pense que le design là-dedans a beaucoup à jouer. Je sais pas combien de temps il nous reste, mais j'avais juste quelques notes pour parler du design et le fait que voilà, là on vient écouter de la musique. Est-ce que c'est du design? Est-ce que, comme tu dis, en boîte de nuit, les différents DJ finalement de sortir ce son à ce moment-là, une petite cloche ou je sais pas un tuba ou quoi que ce soit, le fait que ce soit du design, je sais pas si on peut appeler ça du design auditif. On a abordé le design culinaire, le design alimentaire, et sur plein d'aspects, des choses qu'on ignore, des choses sur lesquelles en fait on passe à côté, alors qu'elles ont été réfléchies, méditées, travaillées très très longtemps avant pour que inconsciemment on soit attiré par ce produit. On n'a pas abordé le thème de la permaculture, mais c'est pareil en fait, quand on agence différents concepts les uns à côté des autres, c'est ça vraiment qui va pouvoir donner de l'ampleur à l'un et à l'autre. On parlait de la Joconde et des noces de Cana mises l'un face à l'autre, qui se répondent et qui à la fois appuient la grandeur de l'un et la petitesse de l'autre. Je sais pas si petitesse c'est bien, c'est un peu péjoratif, mais le fait qu'il soit petit. Dans la permaculture, l'idée vraiment c'est que je vais essayer de bien le sortir. C'est que l'addition, voilà, j'ai oublié la phrase. C'est l'addition des éléments est plus grande que les éléments pris individuellement. C'est-à-dire que 1 plus 1 n'est pas égal à 2, mais égal à 3. Parce que on va pouvoir ressortir en fait un bénéfice de l'addition en elle-même. Mais ça, c'est une conception à faire au préalable qui est très très vorace en fait en connaissance. Et si le design de départ n'est pas bien décrit, n'est pas bien posé, en fait, n'est pas bien implémenté, tout ce qui suit après sera pas bien fait. D'ailleurs, il y a une petite blague comme ça qui circule dans le domaine technologique et de la programmation. Ce qui coûte une unité, un franc, un euro, un dollar, ce qui coûte une unité à modifier au moment de la conception, coûtera 10 unités à modifier au moment de la programmation, 100 unités au moment du déploiement et 1000 unités au moment de l'activation de la mise en service du produit. Et là, on voit bien qu'en fait, si à la racine, si à la base, on arrive à traiter en fait le problème, on résout en fait beaucoup, beaucoup de difficultés par la suite. Et le design, encore une fois, c'est son but, c'est d'avoir une conception viable, stable, à la base, pour qu'ensuite ça se passe de façon simple et facile.
Brève histoire de l'imperceptible de Marcel Duchamp à nos jours. Par l'auteur Thierry Davila. Ce livre a été édité en 2010. Et je vous propose de plonger un peu plus loin dans l'introduction pour le reste de cette écriture et de cette lecture. De l'imperceptible à présent. Il y a donc bien une invisibilité de l'art, ou plus exactement, un art invisible. Doté de déterminations phénoménologiques, nous aurons à y revenir, qui ne rejoignent pas un art de l'invisible, entendu ici comme une mise en forme d'une réalité transcendante, l'image, dont on sait qu'il est à l'origine de la vocation funéraire de l'art en Grèce et de son entreprise de figuration, autrement dit-on, on sait qu'il est au principe même de l'apparition de l'art occidental, ou encore, pour ne citer qu'un seul autre exemple historique remarquable dont on suit la prégnance au Moyen-Âge dans l'art byzantin, pour lesquels ces turéfères avaient admis la possibilité et même la nécessité d'un genre d'image qu'il fallait regarder avec les yeux de l'esprit, parce qu'elle montrait l'invisible, parce qu'elle le reflétait, le représentait, qui n'y a pas pour l'heure d'histoire construite, mais qui produit des effets à différentes époques de l'art. Il y a donc bien une quasi-présence ou une quasi-absence de la forme qui trace l'identité de la prise de forme elle-même. Et peu importe d'ailleurs que cette ténuité extrême n'est pas véritablement son histoire, si l'on entend par là très classiquement, très académiquement, la construction logique et déductive de son apparition dans le temps, car, de par cette valeur phénoménale, cette imperceptibilité de l'œuvre appartient à ce que Henri Faucillon a décrit comme une histoire qui n'est pas unilinéaire et purement successive et qui peut peut-être être considérée comme une superposition de présents largement entendus. Elle est toujours prise dans une intempestivité qui la constitue comme telle. Bref, elle est l'objet d'un jeu de transformation, de rappel et de relance, de renvoi et d'actualisation qui en fait un processus historique non pas évolutif, mais en déplacement, soumis à des itérations, se diffractant et se réfractant à travers des gestes innombrables et pluriels. Autant d'opérations qui amplifient ce que, de son côté, Jacques Derrida a justement qualifié de contemporanéité sans âge. D'ailleurs, les créateurs eux-mêmes, quand ils sont grands, vivent pleinement en toute conscience dans cette coprésence des durées. Leur stratification active est bien souvent motrice qui, par exemple, amène Robert Smithson à constater que l'artiste doit aller là où leur futur lointain rencontre les pensées lointains. Et avant lui, Marcel Duchamp avait avancé en faisant explicitement référence à Nietzsche dans une formulation qui résonne étonnamment avec celle choisie par Faucillon, pour souligner l'intempestivité des œuvres dans l'art. À chaque fraction de la durée, reproduit toutes les fractions futures et antérieures. Toutes ces fractions passées et futures coexistent dans un présent qui n'est déjà plus ce qu'on appelle ordinairement l'instant présent, mais une sorte de présent à étendue multiple. C'est dans ces multiples étendues du temps que le sujet ici abordé circule. C'est dans leur incessante activation qu'ils trouvent les moyens d'une plasticité renouvelée. Voilà, c'est un petit extrait qui part dans des réflexions philosophiques et conceptuelles assez poussées. J'espère que je ne vous ai pas abasourdi avec cette lecture, mais je trouve qu'elle donne, qu'elle rebondit assez bien sur toute... la discussion que vous venez d'avoir ensemble.
Après, toi, Ariane, comment tu, si tu avais à synthétiser à peu près cette lecture, comment tu la vois par rapport à cette thématique ?
En fait, elle renvoie pour moi à des choses assez conceptuelles dans l'art, de comment on crée du concept et comment des concepts peuvent être imperceptibles. L'ouvrage... dont j'ai tiré cet extrait se base beaucoup sur le travail de Marcel Duchamp, qui est quand même l'un des fondateurs, on va dire, de l'art conceptuel au XXe siècle. Mais je trouve que, du coup, c'est intéressant cette lecture que Thierry Davila fait sur, historiquement, à partir de Marcel Duchamp et ensuite, comment l'imperceptible a pu être dans les œuvres et comment il peut... être de différentes manières présentes, sans s'affirmer, en étant presque dans l'invisible ou dans des toutes petites choses. Et je trouve ça très beau comme une image de penser que l'art peut être presque invisible ou en tous les cas être inframince. Et il faut juste savoir le voir parfois.
Ouais, ça, je trouve ça fait vachement un parallèle avec ça fait vachement un parallèle avec avec ta mamie en fait que t'as été interviewée sur le fait de l'émotionnel aussi, je trouve. Enfin, du coup, ça dit un peu l'inverse de ce qui avait été dit avec ta mamie parce qu'elle disait que l'imperceptible n'existait pas et que ce qui est perceptible, lui, véhiculait des émotions et que justement, toi, avec ce texte, tu parles de l'imperceptible mais comme étant à des endroits, des tout petits détails ou des choses qui fait vibrer et créer de l'émotion.
Exactement, j'étais pas du tout d'accord avec ma grand-mère, ou en tous les cas, je m'attendais pas du tout à cette réponse. Et je trouve que dans l'imperceptible, c'est des choses qu'on ne perçoit pas, ou en tous les cas, qui sont juste avant le fait qu'on ne peut pas les percevoir, l'imperceptible. C'est, ils sont là, mais on ne les perçoit pas. C'est d'ailleurs ce qu'il y a dans un peu l'invisibilité. Je rebondis sur Harry Potter tout à l'heure et la cape d'invisibilité. On ne voit pas Harry Potter sous sa cape, pourtant il est là. C'est l'invisibilité.
Eh bien, merci Ariane pour cette lecture. Je pense qu'on approche de la fin de l'émission. Est-ce que vous avez peut-être un sujet qui vous tenait à cœur et que vous n'avez pas pu aborder?
Je dirais surtout, pour conclure de mon côté, que le design c'est un outil et qu'il faut simplement l'utiliser à bon escient et qu'il mérite finalement qu'on y prête attention. C'est un peu comme un jeu d'illusionniste au final. Est-ce qu'on a envie à un moment donné de savoir comment le magicien fait disparaître sa carte dans sa main? Ou est-ce qu'on veut rester émerveillé? C'est un peu ça, en fait, le design. C'est de savoir, est-ce qu'on a envie de comprendre la mécanique qui y a derrière tout processus de création, ou est-ce qu'on a envie de rester finalement émerveillé et au risque peut-être de se faire mener par le bout du nez à certains moments. Je repense à l'exemple de la publicité. Mais pour conclure, le design est absolument partout et qu'on en ait conscience ou non, il est présent dans notre quotidien, dans de nombreux domaines.
De notre émission La Cabane, qui était déjà la deuxième émission déjà de ce type, qui est donc l'émission culturelle qui parle d'art sans complexe autour d'une discussion entre amis. Vous pouvez normalement retrouver ce podcast sur Prune, sur le site Prune. Et n'hésitez pas, chers auditeurs et auditrices, à réagir sur nos réseaux sociaux. Alors, nous avons un Instagram qui s'appelle La Cabane, il me semble, et une page Facebook. Donc n'hésitez pas, si vous voulez proposer des thématiques, réagir à des discussions qu'on a eues ou réagir à d'autres choses qui s'est passé pendant l'émission. N'hésitez pas, on est à l'écoute et on aime beaucoup les retours.
Vous venez d'écouter l'émission culturelle La Cabane. Retrouvez nos deux acolytes, accompagnés d'un nouvel invité, chaque dernier mardi du mois, de 13h à 14h, sur Prune 92 FM. La Cabane, l'émission où l'on parle d'art sans complexe.